treat you. I feed myself, I feed you, I heal myself, I heal you. I love myself, I love you. I love you. I love you. I love you. My little bone cracker, my little painkiller, my little backstabber, my little brain crusher, my little star watcher, my little spellcaster, my little fly catcher, my little light teller, my little fire starter, my little street fighter, my little night walker, my little mind reader, my little blood drinker, my little blood runner, my little teardropper, my little light teller, light teller.
Dupé par les faux semblants, la légèreté du moment puis leurs mots comme des balles perforent mes entrailles. Leurs clichés puants me pourrissent le moral. Ils en veulent aux PD, aux galériens, à l'étranger, aux vauriens. Pour eux, femme égale larbin, faible mère ou putain. Ils crachent aux qui se détachent, groupe et de sa protection remarche. Les mots du macho, du patron, du colon. Les bénéfices à tes œillères sont des milliardaires qui kiffent qu'on passe ton air sur des boucs émissaires. T'as peut-être pas choisi ta connerie, mais ton islamophobie me fait pas plus gaulerie que la chasse aux juifs sous Vichy. Dans ce monde pétri, a priori moisi, le beauf en nous surgit dès qu'on a choisi de devenir l'otage des déjections de l'opinion dans lesquelles on nage comme un poisson dans sa prison. Chez eux, la liberté, c'est l'esclavage du lavage de cerveau.
Et l'ignorance,
la force orange de leur troupeau.
Au royaume des beaufs,
le pouvoir est gras,
reste sain et sauf en désignant des parias.
Chez eux, la liberté, c'est l'esclavage du lavage de cerveau.
Et l'ignorance,
la force orange de leur troupeau.
Au royaume des beaufs,
les connards sont rois.
Veulent-tu vivre dans les caboches et tes petits soldats? Je fais le tri de ce qu'on me dit, méditer dans la loterie des biteries, débiter de sacrés numéros qui veulent massacrer mes héros. En gros, courageux, dominés qui résistent aux minces, j'en suis aussi, insiste à pas d'idole, des influences, des perspectives. J'ai le compteur qui s'affole, mémoire vive, sélective. Évacuation de mon cerveau, du caca qui sort des bouches, les faux tuyaux. Quelques retouches, les têtes ou les je sais pas, sous des éclats de certitude. Politiquement correct, Eureka, ce n'est pas une question de politesse, mais de gratitude. Des écarts de justesse plaisent, bénis celui qui se bat pour que cela cesse. Que les dires s'accordent avec les gestes. Le fait d'un redire trop fort sur la corde et reçoit se manifeste. Je fais de l'alchimie, les réactions enchaînent. J'aime mon new, rédaction s'enchaîne. L'histoire du vase et des gouttes d'eau. Goudé à la base, casse le pot. C'est qui va ramasser pélo. Fais pas genre ta race. Privilégié depuis le berceau, entre gens de mauvaise foi, le roi est roi.
Chez eux, la liberté, c'est l'esclavage du lavage de cerveau.
Et l'ignorance,
la force orange de leur troupeau.
Au royaume des beaufs,
le pouvoir est gras,
reste sain et sauf en désignant des parias.
Chez eux, la liberté, c'est l'esclavage du lavage de cerveau.
Et l'ignorance,
la force orange de leur troupeau.
Au royaume des beaufs,
les connards sont rois.
Veulent-tu vivre dans les caboches et tes petits soldats?
Le crime par la pensée est la mort. Le crime par la pensée n'entraîne pas la mort. Il est la mort. J'ai commis, avant même de le coucher par écrit, le crime décisif qui inclut tous les autres.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la voix sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui démarre pour son émission d'aujourd'hui, avec quelqu'un qu'on est très très heureux d'accueillir dans le studio ce soir. Il s'agit de Jean-Jacques Rosa, dont on va discuter le dernier livre qui vient de sortir bien il y a maintenant 2 mois, aux éditions Hors d'Atteinte, très bonne maison d'édition. Et ce livre s'appelle « L'esprit du totalitarisme » avec un sous-titre « George Orwell et 1984 face au 21e siècle ». Alors, Jean-Jacques, tu as été longtemps professeur de philosophie en lycée, tu as essayé aussi assistant de Jacques Bouvresse au Collège de France, tu as beaucoup écrit déjà sur Orwell et sur 84, et aussi sur les différents écrits d'Orwell. Et ce livre, L'esprit du totalitarisme, là, il est consacré à Orwell et 84. Le sous-titre est très important, c'est face au 21e siècle. Alors, c'est déjà une première question que j'aurais envie de te poser. C'est finalement, pourquoi Orwell aujourd'hui? Pourquoi 84 aujourd'hui? Dans la mesure où Orwell est un romancier qui est très connu, orwellien est devenu presque un terme, voilà, du langage courant. On connaît le télécran, Big Brother, la novlangue. Ça sont des thèmes qui semblent effectivement acquis, dont le sens a l'air fixé. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à réentreprendre ou à essayer de relire Orwell aujourd'hui à la lumière du 21e siècle? Du coup, on va en parler. Pourquoi donc revenir réinterpréter Orwell et notamment 84 aujourd'hui?
Bien, merci d'abord à vous de m'avoir invité et à donner l'occasion de parler un petit peu de ce livre. Et je lis Orwell depuis 84, en tout cas depuis une bonne quarantaine d'années, et avec la conviction que ce n'est pas seulement un romancier ou un polémiste ou un satiriste, comme on le dit, mais qu'il est aussi un penseur. Et qu'il est un penseur avec les moyens d'un roman. Et je suis tombé sur une phrase, quelque chose qu'il dit de lui-même dans une lettre autobiographique écrite en 1947, donc au moment où il est en train d'écrire 84, le livre a été écrit entre 1946 et la fin de 1948. Il dit ceci: vers 1935, je me suis trouvé infecté par une horreur du totalitarisme. Infecté. Et je me suis dit qu'il valait la peine de relire tout Orwell depuis 1935, depuis le moment où il commence à devenir vraiment un écrivain à part entière, jusqu'à 48, au moment où il remet à son éditeur le manuscrit de 1984, de le relire sous cet angle, sous l'angle d'une pensée du totalitarisme. Orwell n'est pas un penseur du socialisme, il n'y a pas d'idée très originale chez lui sur le sujet, c'est pas un penseur de la démocratie non plus, mais il est un penseur du totalitarisme. Et ce qui m'a frappé, j'étais convaincu que cette question du pouvoir était centrale chez lui. Mais ce qui m'a frappé en faisant ce travail, c'est de découvrir à quel point sa pensée est forte, cohérente et novatrice, alors qu'elle s'exprime souvent sous forme, c'est ça qui est très difficile, une image, une formule, un mot, un paragraphe, une causerie à la BBC, une petite chronique à ma guise, quelques pages dans un essai où il est question de romans policiers. Et quand on rassemble tout ça, quand on le traite comme des carnets de recherche, en fait, j'aurais envie de dire que Orwell, de 1935-36, avant même qu'il parte en Espagne, se battre en Espagne contre le franquisme et le fascisme, jusqu'à sa mort, il a accumulé comme ça des notes de recherche. Il a élaboré petit à petit sa pensée sur le totalitarisme. Et il est arrivé le plus loin qu'il a pu aller dans 1984. Une des difficultés étant aussi que 1984, il n'a jamais pu le commenter, puisque toute l'année 1949, il l'a passé au fond d'un lit d'hôpital, incapable d'écrire, et qu'on n'a pas de... Il n'a pas pu parler de son livre, il n'a pas commenté son propre livre, qui lui-même a été happé ensuite par les débats de la guerre froide, ce qui l'a profondément, profondément changé. C'est peut-être quelque chose de, dont il faudrait parler plus longuement, on n'a pas la place ici, mais Orwell a formé sa pensée dans les années 30.
Ça, c'est important, ce que tu dis là, parce que souvent, effectivement, 84 est pensé, alors il a été beaucoup lu, effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte qui est celui de la guerre froide, et effectivement, il est mis en avant par des gens qui pensent le totalitarisme comme une espèce de concept qui permettrait de mettre un peu dans le même sac hein, aussi bien les régimes fascistes italiens, le nazisme allemand et évidemment l'Union soviétique et le bloc de l'Est après la Seconde Guerre mondiale. Donc il est associé à cette affaire-là. Et toi, ce que tu dis, c'est que en fait, il y a chez lui en fait un travail d'élaboration au long cours de cette notion de totalitarisme, mais qu'en fait, qui est bien antérieure en fait à cette affaire à cette situation de guerre froide, en fait, ce qu'il a en tête lui, effectivement, c'est la manière dont en fait la politique, y compris celle qui constate, celle à laquelle il participe en Angleterre ou avant d'aller en Espagne, tu l'as dit, hein, pour se battre contre Franco, la manière dont effectivement là, il y a un esprit du totalitarisme, hein, pour reprendre le titre de ton livre, qui contamine et qui est là. Et en fait, est-ce que tu irais jusqu'à dire que finalement Orwell doit être lu effectivement comme un penseur du totalitarisme au même titre que les gens qu'on cite habituellement comme Hannah Arendt, comme
la difficulté, c'est que nous, quand on dit totalitarisme, il y a deux types en gros de concepts aujourd'hui, de vision de ce concept. Ou bien c'est Arendt, une conception, je dirais, philosophique qui est très essentialiste du totalitarisme et très apocalyptique en même temps. Ce qui intéresse Arendt, ce sont les moments de crise, les moments d'extrême du totalitarisme. Au fond, c'est ce qui l'intéresse, c'est Auschwitz et les purges de 37-38 en Russie. Ce qui ne lui permet pas, Aron l'avait déjà noté dès les années 50, ce qui ne lui permet pas de véritablement comprendre ces régimes dans leur continuité et dans leur durée. Or, ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui au XXIe siècle, c'est bien à la durée de ces régimes. Si le régime chinois, il est au pouvoir depuis 1949, Poutine est au pouvoir depuis 25 ans. On nous explique que tous les 6 mois qu'il va s'effondrer, je n'en crois rien. Donc, question de la continuité, c'est le fait que c'est un type de régime. Et il ne faut pas oublier que le terme totalitarisme, il n'a pas été inventé par Hannah Arendt ou par Raymond Aron ou Brzezinski, le politiste américain des années 50, qui était vraiment un penseur de guerre froide, lui. Il a été inventé par des antifascistes italiens, dès 1923. Et il a été repris ensuite par, notamment, pour comprendre Orwell, c'est important, par un certain nombre d'anciens militants de gauche, voire d'anciens socialistes, anciens communistes allemands ou autrichiens, qui dans les années 30 se sont retrouvés à la fois anti-staliniens et anti-hitlériens. La question pour eux, ça a été à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux types de régimes? Ils savaient très bien que c'était pas l'idéologie, ils savaient très bien que c'était pas le système économique, ils cherchaient autre chose. C'est dans cet esprit-là que Orwell a établi la première version de sa pensée sur le totalitarisme, en disant, c'est un nouveau type d'homme qui arrive au pouvoir, ce sont des hommes de pouvoir qui veulent le pouvoir pour lui-même.
Ça, c'est l'origine, et au fond, ce que tu suggères, du coup, dans ton livre, là, l'esprit du totalitarisme, c'est une chronologie où, en fait, il y a, en fait, le contexte d'élaboration de la pensée d'Orwell que tu viens de rappeler, qui est, en fait, des antifascistes dans les années 30, en 48 à la sortie de 84, en 49, il y a la révolution chinoise, et le régime chinois est toujours en place.
Oui.
Et au fond, la chronologie, en fait, que tu sembles suggérer, c'est qu'on a, avec Orwell, quelqu'un qui réfléchit à une compréhension du totalitarisme, qui est, alors, on va pas dire programmatique, c'est pas ça, hein, mais qui finalement peut fournir les outils pour comprendre le fonctionnement d'un régime qui est aujourd'hui la deuxième puissance mondiale.
J'ai commencé à écrire ce livre en bonne partie à l'époque du Covid. Et l'image qui m'est venue, c'est l'image du totalitarisme comme un virus, né d'un certain nombre de 3 virus souches. Le virus italien, enfin le fascisme de Mussolini, le léninisme, le bolchevisme en Russie et le nazisme en Allemagne. Et qu'a fait Orwell? Il n'a pas écrit sur ces régimes-là. il n'y a pas de sens à lire 1984 comme une espèce de mixte de stalinisme et d'hitlérisme. Il a imaginé des totalitaires de la deuxième génération. Il a anticipé en ce sens-là. À quoi ressemblerait un régime totalitaire à Londres, en Angleterre, dans une génération? Donc, il écrit en 48, enfin, il écrit en 46-48, donc en 1984. À quoi ça ressemblerait si on imagine une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, si on imagine une révolution radicale, une guerre civile, et des hommes politiques, un parti politique qui a tout le pouvoir en main? Qu'est-ce qu'il fait?
Aujourd'hui, c'est le cas de la deuxième puissance économique mondiale.
Qu'est-ce qu'il fait? Comment il s'y prend? Alors, effectivement, c'est une des caractéristiques aussi qui rend... qu'il faut toujours avoir présente à l'esprit, c'est que Orwell imagine un système installé. Il ne raconte pas la révolution totalitaire. Ça, il l'a raconté
dans la ferme des animaux.
Les transformations, il les a racontées dans La ferme des animaux, qui est une fable sur l'évolution de la révolution bolchevique. Bon. Mais lui, dans 1984, ce qui l'intéresse, c'est le système une fois installé. Et il est vrai que nous sommes aujourd'hui face à des régimes, typiquement le régime de Poutine et celui de Xi en Chine, sont des régimes qui sont installés. Ils ne sont pas... La révolution permanente, elle s'est arrêtée en Chine avec la mort de Mao. Celui qui a stabilisé le régime, c'est Deng Xiaoping, à partir à la fin des années 70, début des années 80, et qui a installé le régime totalitaire chinois dans une autre rythme. Il l'a transformé en régime capitaliste, tout en étant parfaitement léniniste toujours.
Mais donc, en chronologie, tu prends ma suggestion. C'est qu'en fait, effectivement, là, ton titre, c'est L'esprit du totalitarisme. Le sous-titre, George Orwell et 84 face au 21e siècle. C'est dans l'élaboration, effectivement, orwellienne, spécifiquement orwellienne, de cette idée de totalitarisme. Il y a le contexte des années 30, oui. Ensuite, il y a effectivement l'apparition de 84, mais ce livre n'est pas en fait une clé de lecture qui serait périmée et qui nous parlerait d'un temps révolu depuis la chute du mur de Berlin. Ce livre, c'est un outil pour comprendre aujourd'hui le fonctionnement d'un système totalitaire arrivé à maturité, comme celui qu'on trouve en Chine aujourd'hui.
Alors, la difficulté, c'est tout à fait ce que je pense, mais la difficulté, c'est que beaucoup de commentateurs ont considéré que le totalitarisme était mort avec la chute du mur de Berlin. Y compris d'excellents commentateurs qui n'ont pas vu que la Chine, qui ont cru que la Chine, que le massacre de la place Tiananmen, où les étudiants qui défendaient la démocratie se sont fait massacrer par les chars et par l'armée chinoise, en juin 89, ils ont vu ça comme la fin de la bureaucratie. Parce que le modèle était tombé à Moscou, il fallait qu'il tombe à Pékin. Il n'est pas tombé à Pékin. Et à Moscou, il y a eu une renaissance. Qu'a fait Poutine, pour aller vite? Il n'a évidemment pas repris le Parti communiste. Mais il a repris une autre invention de Lénine, qui est la Tchéka. La police politique, qui ne dépendait pas de l'État, qui dépendait du parti. Et lui-même, la Tchéka, le GPU, le NKVD, le mot me manque, soudain, bref, le KGB, puis le FSB, dont Poutine a été un des dirigeants, c'est la même institution. Et donc, Poutine s'est appuyé, non pas évidemment sur la branche parti, mais il s'appuyait sur l'autre institution créée par Lénine, qui est la Tchéka. Et c'est un totalitarisme tchéquiste qui est en place. On a rétabli devant la Loubianka, qui est le bâtiment, l'ancien siège du KGB, on a rétabli la statue de Dzerzhinsky, qui a été le fondateur de la Tchéka et du KGB. Poutine a fait rétablir tout cela.
Donc ça veut dire que une des idées, si je comprends bien ce que tu me dis, pourquoi lire Orwell aujourd'hui, pourquoi écrire sur Orwell aujourd'hui, essayer de comprendre ce qu'il a à nous dire sur le totalitarisme, c'est parce que le totalitarisme, d'après toi, c'est pas quelque chose qui est derrière nous, c'est quelque chose qui est là.
C'est-à-dire que je crois que les Italiens ont tout de suite compris, les antifascistes italiens et les exilés allemands anti-staliniens et anti-hitlériens ont tout de suite compris qu'il s'agissait d'un nouveau type de régime. Au sens où la démocratie est un régime et où un type de régime différent du despotisme ou de la tyrannie ou des dictatures classiques. Ils ont tous eu cette intuition-là, qu'il y avait quelque chose de radicalement différent. Et c'est une idée qu'Orwell a partagée, c'est une idée qu'on a peut-être oubliée, mais il me semble que plus d'un siècle après la naissance des premiers régimes totalitaires, c'est une idée qui mériterait d'être reprise au sérieux, notamment pour essayer de comprendre ce qu'il y a de réellement commun entre les deux régimes principaux totalitaires d'aujourd'hui, mais aussi ce qu'ils peuvent avoir de commun avec certaines entreprises totalitaires en cours, ce que j'ai appelé des laboratoires du totalitarisme, puisque le totalitarisme, ça s'invente. C'est pas du tout un système rigide et fixé. Ce qui est fascinant, au contraire, dans les régimes totalitaires, c'est leur capacité de réinvention.
Bon, eh ben écoute, on va peut-être faire une première pause musicale et puis on va rentrer un petit peu après dans le contenu hein, de ce que tu appelles l'esprit du totalitarisme de ton titre, du titre de ton livre. On fait une première pause et on se retrouve tout de suite après. Bonsoir à tous et bien sûr Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa deuxième partie avec aujourd'hui un invité qu'on est très heureux d'accueillir ce soir. Il s'agit de Jean-Jacques Rosa autour de son livre qui vient de sortir aux éditions Hors d'atteinte. Il s'appelle L'esprit du totalitarisme, ça c'est le titre, et le sous-titre c'est George Orwell et 1984 face au 21e siècle. Alors, on va peut-être en venir, Jean-Jacques, si tu veux bien, alors finalement, ce qui fait le cœur, finalement, de l'analyse qu'Orwell propose du totalitarisme, puisque, alors, tu l'as dit, il présente ça comme, il a l'intuition, il n'est pas le seul, bien sûr, mais il va développer cette idée qu'on a affaire avec l'Italie mussolinienne des années 30, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, avec la révolution russe, à un nouveau régime qui est susceptible de s'adapter, on en reparlera après, tu le dis. Et en fait, la caractéristique de ce régime, c'est que, au fond, il repose non pas sur une idéologie ou sur un système économique particulier, mais essentiellement sur la volonté de pouvoir de ses dirigeants. Et c'est une idée que j'ai trouvée personnellement très originale, un peu troublante aussi, parce que l'idée d'Orwell, c'est que finalement, les dirigeants des régimes totalitaires, ils sont décrits comme une espèce de petit noyau d'oligarques. Hein, oui. Qui sont soudés par une même une forme de religion du pouvoir, oui. Pratiquement. Ce qui est à la fois très séduisant, très nouveau aussi, il faut le dire quand même, parce qu'on n'a pas ça chez les autres penseurs habituels du totalitarisme. et en même temps qui pose aussi un certain nombre de questions. Alors, par exemple, réduire en fait le totalitarisme, enfin réduire ou analyser, comprendre le totalitarisme comme à partir de la volonté de pouvoir de ses dirigeants, est-ce qu'on risque pas du coup effectivement de se dire ben finalement du coup c'est quoi la particularité quoi en fait par une volonté de pouvoir, on a ça chez n'importe quel politicien professionnel un peu endurci, on en connaît, voilà. Bon, donc est-ce que tu peux peut-être commencer peut-être par éclairer ça en fait, cette idée voilà de définir le totalitarisme par ça, par avant tout comme un régime qui se caractérise par la volonté de pouvoir de ses dirigeants. Et une volonté, un rapport quasi religieux, en fait.
J'ai essayé de prendre au sérieux, et vraiment au sérieux, et jusqu'au bout, les trois principes que O'Brien, qui est dans le roman le porte-parole des dirigeants totalitaires, puisqu'il est à la fois un des chefs de la police de la pensée, il est tortionnaire, et en même temps, il est philosophe et idéologue.
C'est un intellectuel.
Un intellectuel bourreau. Et il y a trois principes qu'il expose à Winston, qui est le dissident et qui, à ce moment-là, d'ailleurs, la scène est assez forte. Il ne lui parle pas face à face dans un salon. L'autre est sur une table de torture, Winston. Et il lui explique, nous voulons le pouvoir pour le pouvoir, pas pour le bonheur, pas pour la richesse, nous voulons le pouvoir pour le pouvoir. Et le pouvoir n'a pas de justification, le pouvoir, c'est le pouvoir. Deuxièmement, nous sommes les prêtres du pouvoir.
Et la formule est d'O'Brien.
Et la formule est d'O'Brien, la formule est d'Orwell. Ouais. Les traducteurs vacillent. Un des traducteurs a traduit « nous sommes le clergé du pouvoir ». On a peur de cette idée de prêtrise. Or, le prêtre, c'est quelque chose de sacré. Il y a quelque chose de... Et O'Brien explique d'ailleurs à ce moment-là que pourquoi il participe au pouvoir, mais parce que c'est la seule manière d'être immortel. Que seul l'homme est... un homme seul est un homme faible et mortel. La seule manière d'être puissant et éternel, c'est d'adhérer à un collectif qui va perpétuellement exercer le pouvoir. C'est comme ça qu'il se présente. Et je pense qu'il faut prendre très au sérieux cette vision-là. Et le troisième trait, qui est tout aussi important, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais qui est caractéristique de ces régimes pour Orwell, c'est que le pouvoir, c'est le pouvoir sur l'esprit. Pas la puissance, la puissance, bien sûr, le pouvoir sur les corps, bien entendu, la torture, les camps, etc., mais le pouvoir sur l'esprit. C'est trois... Et en fait, j'ai bâti mon livre en partie en essayant d'expliquer, d'expliciter, à partir de tout le reste de l'œuvre d'Orwell, ce que signifiaient ces trois principes. Sur le premier, évidemment, honnêtement, moi-même, quand j'ai commencé un petit peu à me dire, mais est-ce que c'est sérieux, cette histoire du pouvoir pour le pouvoir? Et puis après, quand en même temps je lisais Orwell d'un côté, puis je lisais les journaux et puis les livres d'histoire de l'autre, c'est un peu comme ça que j'ai écrit mon bouquin, regardez Deng Xiaoping. Voilà un type qui a été un fidèle de Mao en 49 au moment de la prise du pouvoir par les communistes en Chine. Il participe, il doit y avoir 2 millions à peu près de propriétaires, entrepreneurs, généraux, etc., chinois, qui sont massacrés. Bien. Et Deng, dans la région qu'il dirige, dirige quelques centaines de milliers de... Bon. Et puis en 78, qu'est-ce qui se passe? En 78, Mao vient de mourir, il y a eu 10 années de révolution culturelle, le pays ne se sort pas du sous-développement, pour employer une vieille expression dans laquelle il est, enfin, n'arrive pas à décoller économiquement. Le régime s'est fragilisé par cette révolution invraisemblable qui consistait à tirer sur le quartier général, donc sur le parti lui-même. Que fait Deng? Il renforce d'un côté le parti et en même temps il lance le capitalisme. Et il annonce qu'il est bon de s'enrichir. Et donc, il y a 20 ans, il disait les capitalistes, on les zigouille. Et 20 ans plus tard, qu'est-ce que je dis 20 ans ou 30 ans plus tard, il dit capitaliste, c'est très bien. Et 20 ans plus tard, 20 ans après, son successeur, Jan Tseming, intégrera les entrepreneurs capitalistes et même les milliardaires dans le parti de la classe ouvrière et des paysans chinois. Moi, l'idéologie, je veux bien. L'économie.
Je veux le dire, oui.
Et donc, ce qui me semble, c'est que Orwell a compris quelque chose. Et d'ailleurs, on le voit, je ne vais pas me relancer dans le détail de 1984, mais dans 1984, l'économie, elle marche pas. Elle est arriérée. L'économie, elle n'est pas importante. Il faut à peu près assurer de quoi vivre au peuple. Et encore, s'il y a des rations et s'il crève un peu de faim, c'est pas très grave. Quant à l'idéologie, elle change tout le temps, puisqu'on annonce tantôt qu'on est en guerre contre tel pays, tantôt en guerre contre tel autre, et qu'on y a toujours été, bien entendu. Bon. Donc, Orwell a développé, dès 1941, l'idée de la flexibilité de l'idéologie. Le parti ne se trompe jamais. Ça, c'est le principe de base. Il est infaillible. Pour avoir le pouvoir, il doit être infaillible.
Ou alors, il choisit ses erreurs. C'est ce que tu dis.
Mais après ça. Ouais, ouais. Mais ensuite, évidemment, il change. Il change de ligne. Que fait Staline en 39? Il décide de s'allier avec Hitler. Parce que pour lui, à ce moment-là, c'est avantageux. S'allier avec les nazis. Bon, eh ben, il le fait. Et puis, 2 ans après, évidemment, quand Hitler l'attaque... Il redevient anti-nazi. Bon, mais où est le problème? Ou bien Staline, après tout, la révolution dans un seul pays, quand on a appartenu à un pays, à un parti du socialisme international, c'est un drôle de changement. Et je parle pas des changements de ligne de Lénine. Donc, Orwell a très vite l'idée. Il y a une différence entre les orthodoxies du passé. Il y a un texte très remarquable, une petite causerie qui donne à la BBC en juin 41, où il dit, il y a une grosse différence avec les orthodoxies religieuses du passé. Les orthodoxies religieuses du passé, vous étiez dedans, vous étiez dans l'église catholique ou telle église protestante. Bah, toute votre vie, vous étiez dans un dogme. Alors, ça vous limitait intellectuellement. Vous aviez pas le droit de dire un certain nombre de choses. Il y avait des interdits. Mais au moins, vous les connaissiez. Vous connaissiez les règles du jeu. Ben là, non, elle change tout le temps. Donc, il n'y a aucune sincérité possible pour un écrivain, il n'y a aucune prévision possible, il y a une dépendance permanente par rapport au pouvoir, parce que le pouvoir peut changer d'idéologie à tout moment. Ce qui ne doit pas changer, c'est la foi dans le régime, la foi dans le parti. Dire que le parti a toujours raison, ce qui a été dit par des millions de communistes pendant des décennies, ou dire qu'il faut suivre le fourreur, c'est quoi? C'est l'idée qu'il doit y avoir une foi inflexible, alors pour le coup, absolument fidèle dans le chef, dans celui qui a le pouvoir, dans celui qui à la fois surveille, c'est Big Brother, mais en même temps veille sur vous. Hein, Big Brother vous regarde, c'est Big Brother, le grand frère à la fois veille sur, enfin, vous surveille, ne vous laissera rien passer, mais en même temps, il veille sur vous, si vous lui êtes fidèle, il vous protège, ce qui est un attribut divin, hein. L'idéologie elle-même, elle peut changer. La meilleure preuve d'ailleurs que vous êtes infidèle, c'est que vous êtes capable de suivre tous les changements idéologiques, voire de les anticiper.
Et c'est ce qu'Orwell dit en décrivant le dirigeant totalitaire. En fait, il faut qu'il soit à la fois cynique, c'est-à-dire être prêt effectivement à suivre, à s'adapter, y compris à faire le grand écart et des virages sur lui-même, et fanatique.
Oui.
Il faut être à la fois cynique et fanatique. Ce qui, à première vue, semble une espèce de contradiction. Mais en fait, on est là sur le ça ne se comprend, effectivement, comme tu le dis, ça ne se comprend que si on a cette idée d'une volonté de pouvoir pour lui-même.
On lit un peu les livres d'histoire sur la Russie ou sur la Chine, ou si on essaie de comprendre même ce qui se passe en ce moment en Russie, par exemple, on voit assez bien le mélange de cynisme et de fanatisme. Si vous n'avez que le fanatisme, vous allez être enfermé dans une idéologie. Voir les dirigeants qui s'enferment eux-mêmes. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner les Khmers rouges, qui s'enferment dans leur fanatisme idéologique, qui réussissent à massacrer en 4 ans un quart de la population cambodgienne, et qui deviennent tellement faibles que les Vietnamiens peuvent les attaquer et reprendre le pouvoir au Cambodge.
Ça donne aussi la chute de Berlin en 1945.
La limite, la folie de Hitler, qui est de croire que l'armée allemande va pouvoir non seulement continuer à lutter contre l'Angleterre, mais pouvoir envahir la Russie et gagner la guerre en trois mois, qui est une forme de folie. Je dirais qu'il n'a pas contrôlé sa folie. Orwell a une formule extraordinaire où il dit que ce sont des régimes de la folie contrôlés, les régimes totalitaires. Un bon totalitaire est celui qui contrôle sa folie. Celui qui ne contrôle pas sa folie, celui qui se perd dans une idéologie qui ne correspond tellement pas à la réalité, qui ne tient pas compte de la réalité, il va s'effondrer. Donc il faut un degré de folie parce qu'il faut la mobilisation, parce qu'il faut l'enthousiasme, parce qu'il faut l'excès en permanence. Ces régimes-là vivent dans une sorte ils sont en guerre en permanence contre quelque chose. Il faut mobiliser, il faut rassembler, etc. Mais en même temps, donc il faut fanatiser, mais en même temps, il ne faut pas perdre un certain ancrage dans le réel, ce qui rend nécessaire.
Oui, avec cette nuance presque que tu disais aussi, c'est que c'est un contrôle. Il faut un contrôle total des esprits. C'est pas tant effectivement la prospérité ou la sécurité matérielle. Alors il faut un minimum, bien entendu. Mais dis le but, effectivement, la cible, c'est effectivement un contrôle des esprits.
J'ai envie de dire, on le voit bien avec le stalinisme, quand Staline réussit à affamer, à faire mourir de faim 4 à 6 millions de paysans russes, on peut pas dire qu'il renforce la Russie, mais il renforce son pouvoir, parce qu'il détruit la classe paysanne et qu'il y aura plus de résistance possible des paysans russes face au communisme. C'est son pouvoir qu'il installe.
Et ça, je le précise dans le livre, hein, parce que c'est bien un livre sur Orwell et c'est bien un livre sur 84. En fait, tu l'expliques par exemple en relisant ce face-à-face entre le héros du livre et O'Brien, dont on parlait tout à l'heure, hein, le représentant, et la manière dont O'Brien cherche justement, en fait, à obtenir, en fait, une espèce de comment dire, d'allégeance volontaire, en fait.
Oui,
c'est pareil.
Oui,
on est toujours sur ces choses comme ça. Il faut qu'effectivement que Winston se plie, mais volontairement, comme si c'était possible. Il faut qu'il veuille se plier, voilà. Et c'est en ce sens-là que c'est pas une affaire matérielle ou de contrôle ou de contrainte ou simplement de menace. C'est pas qu'une affaire de menace physique.
Giovanni Amendola, qui est le premier à avoir utilisé le terme totalitaire en 23 en Italie, dit ce qui est nouveau avec ce type de régime, c'est qu'il veut la conversion des Italiens et qu'il va utiliser des moyens religieux, mais dans la sphère politique.
Il faut abjurer.
Il faut abjurer et il faut se soumettre en... Alors, cette question du pouvoir des esprits sur l'esprit, je pense qu'on l'a souvent, on la comprend mal parce que on confond cela avec le bourrage de crâne. Or, ce que décrit Orwell, et là où il est absolument extraordinaire, c'est qu'il explique que le pouvoir sur les esprits, la domination sur les esprits, elle consiste à changer le mode de fonctionnement de l'esprit. Il consiste à changer les capacités cognitives, les capacités de jugement, les capacités de connaissance, à changer les émotions, à changer les sentiments, moraux, à détruire par la haine. Le régime totalitaire est un régime de la haine. Le régime de Poutine en ce moment, ce que Poutine est en train de réaliser, c'est un régime qui repose sur la mort. L'avantage aujourd'hui pour les Russes, c'est d'aller combattre, de se faire tuer et de pouvoir assurer à leur famille ou à leur femme une certaine rente, etc. Le régime poutinien est en train de s'enfermer dans un régime de mort. Mais un régime de mort, ça peut durer très longtemps. Et de briser la volonté. Il y a une scène qui est très connue, et je voudrais la commenter, c'est en deux minutes. Il y a une scène qui est très connue à la fin du roman. Winston, le dissident, a tout cédé sous la torture, etc., et l'initiation à laquelle qu'il subit d'une certaine manière, la rééducation qu'il subit, sauf qu'il est resté fidèle à la femme qu'il aime, à Julia. Et O'Brien le sait. Et O'Brien, à ce moment-là, dit oui, tu es resté fidèle à Julia. Et il l'emmène dans la salle 101, la fameuse salle où personne ne tient le coup, personne ne résiste. Et il le met en face d'une cage à rats dans laquelle il suffit qu'il ouvre la porte. Et Winston doit trouver lui-même ce qu'il doit dire et faire
Pour échapper
à sa terreur, la plus épouvantable. Et à ce moment-là, c'est lui, de lui-même, qui invente le cri « Pas à moi, faites-le à Julia », qui est la trahison totale et absolue de son amour pour elle, et qui est la trahison de lui-même. Une fois qu'il a trahi Julia, il ne sera plus qu'une loque, et le chapitre d'après se conclut par « Il aimait Big Brother ». Il ne peut plus aimer personne, même pas lui-même. Il s'est auto-détruit. Mais c'est lui-même qui a trouvé la solution. On n'est pas du tout dans une scène sadique, contrairement à ce qu'on a dit quelquefois. O'Brien, la seule chose qui pourrait, le gêner, c'est pour le moins, ou l'embarrasser, ce serait que Winston se taise et accepte de se faire dévorer le visage par les rats. Parce que à ce moment-là, il serait le martyr. Il aurait résisté à son pouvoir. Or, ce que veut O'Brien, c'est pas savourer le plaisir d'un type qui se fait bouffer le visage par des rats. Il n'en a rien à faire, ça. Ce qu'il veut, c'est le spectacle et le pouvoir, enfin, exercer un pouvoir tel que ce type craque. Et de lui-même se soumettre, je dirais, réalise la servitude volontaire par lui-même, grâce au stratagème dans lequel, évidemment, O'Brien l'a enfermé.
Et c'est en ce sens-là, effectivement, qu'on comprenne bien, c'est que, oui, ça a du sens de chercher du pouvoir pour lui-même, au sens où, effectivement, c'est pas le plaisir qu'il en tire, c'est pas le fait de... c'est pas le confort, c'est pas la richesse, c'est pas tout ça, c'est effectivement le fait de, d'avoir réussi à convertir et avoir changé quelqu'un de manière convertible, on va dire, à volonté. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça, c'est le propre, ça, c'est du côté, effectivement, du dirigeant totalitaire. Alors, on va peut-être faire une petite pause là-dessus, mais après, je voudrais qu'on...
On viendra à la question de la vérité.
Et la vérité, bien sûr. Et bon, petite pause musicale, et on reprend.
...34, 35 jaar na.
Nooit!
Bien sûr, Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, voix sans dû ni mettre ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième et dernière partie ce soir. Alors, avant de redonner la parole à notre invité, je précise les morceaux qu'on a entendus depuis tout à l'heure, puisque j'avais oublié de rappeler ça. Alors, la particularité des morceaux de ce soir, c'est qu'ils sont tous de 1984, puisque c'est évidemment le fil de notre émission. Alors, il y avait d'abord Missy Blodia et Chrome et Dub Mentalist sur un morceau qui s'appelle Orwell au pays des beaufs. Alors ça c'est plus récent. Mais ensuite vous avez pu entendre tout à l'heure House Vice, 1984, et à l'instant Amsterdam, 1984 également. Alors on a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Jacques Rosa, qui est l'auteur d'un livre qui vient de sortir il y a un mois aux éditions Hors d'atteinte. Le livre s'appelle L'esprit du totalitarisme, avec un sous-titre George Orwell et 1984, justement, face au 21e siècle. Alors, tu nous expliques, Jean-Jacques, voilà, pourquoi, tu nous as dit, pourquoi effectivement tu pensais que Orwell devait être considéré comme, non pas simplement comme un romancier ou un satiriste, mais bien comme un penseur du totalitarisme, et pas simplement du totalitarisme de son temps, c'est-à-dire des années 50 et de la guerre froide, mais aussi un penseur du totalitarisme tout court, y compris de celui auquel on peut faire face aujourd'hui, avec cette idée que finalement le cœur de ce que, de ce qui fait un régime totalitaire, c'est la nature de ces dirigeants, le fait qu'on a affaire à des gens qui cherchent à exercer le pouvoir pour lui-même, dans une conception quasiment religieuse du pouvoir. Il y a un autre point sur lequel tu reviens très souvent dans ton livre, là, l'esprit du totalitarisme, c'est aussi le rapport à la vérité et le projet de destruction de la vérité qu'il y a aussi dans ces régimes-là. Avec l'idée qu'évidemment la vérité est quelque chose qui peut faire obstacle à la volonté de pouvoir et à la conversion et à la cohérence d'un régime qui doit sans cesse s'adapter pour durer. Hein. Voilà, il y a cette idée-là. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus là-dessus ?
Il y a une phrase du philosophe Alain, qui est très loin d'Orwell, mais qui écrivait un jour « Les tyrans n'aiment pas la vérité n'obéit pas ». La vérité n'obéit pas. La vérité, c'est la vérité. Les faits sont ce qu'ils sont. Les faits historiques ont eu lieu. Les faits scientifiques, les faits physiques et autres ont lieu. Et ou bien on tient un discours de vérité, c'est-à-dire qu'on essaie de décrire ce qui s'est passé ou ce qui a lieu sérieusement et correctement. Ou bien on ment, ou bien on déforme, ou bien on invente. C'est bien ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité. On invente des faits alternatifs, on invente des choses qui n'ont jamais existé.
Fake news.
Or, si vous voulez avoir le pouvoir sur les esprits, il faut absolument détruire le rapport à la vérité. Parce que tant que les gens peuvent dire « Mais attendez, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme nous le dit le régime, moi j'ai vu ça, ou j'ai compris ça, ou j'ai appris ça », ils ont un ancrage dans le réel qui empêche le régime totalitaire de s'emparer entièrement de son esprit. Il faut peut-être quand même citer la formule de O'Brien, où il dit à Winston qu'à la fin, tu seras creux, nous allons te presser, te vider, puis nous te remplirons de nous-mêmes. Pour remplir...
Nous-mêmes, le parti.
Le parti, bien sûr. Pour remplir quelqu'un du parti, il faut enlever non seulement tout ce qu'il croyait, toutes ses émotions, etc. Mais il faut surtout l'empêcher d'avoir un ancrage, l'empêcher d'avoir autorité sur ses propres jugements, de pouvoir dire « moi je sais que, moi je crois que, et moi j'ai vu que ». Ce pourquoi Orwell a compris dès 1941, dans la même causerie à la BBC dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs, à propos de la flexibilité de l'idéologie, où il dit « il est dans la logique des systèmes totalitaires de détruire la vérité objective ». Pas n'importe quelle vérité, la vérité objective. La vérité objective, c'est la vérité c'est ce qui ne dépend pas de nous.
C'est ce qui est commandé par les faits.
C'est ce qui est commandé par les faits, que ce soit que la Terre soit ronde ou que Napoléon ait perdu la bataille de Waterloo, ça ne dépend de personne. C'est comme ça. Bon. Et la vérité, c'est ce qu'on découvre. Orwell a des formules extrêmement claires là-dessus. La vérité, c'est pas ce qu'on fabrique, c'est pas ce qu'on invente. La vérité, c'est ce qu'on découvre. C'est ça, dit-il, qui est caractéristique d'un esprit libéral, au sens où lui entend le mot libéral. Et c'est aussi ce qui lui fait dire, c'est le fameux axiome de Winston dans 1984, la liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4, qui n'est pas quelque chose, qui n'est pas une norme, etc., qui est un axiome, parce que c'est la réalité de base. Si vous n'avez plus la capacité de dire que 2 et 2 font 4, et si vous êtes amené à dire que 2 et 2 font 5, ou 28, ou 56...
Ou les 3.
Ou les 3 à la fois, ce qui est à peu près le style de Trump aujourd'hui. Hein. Mmh. Les tweets de Trump, c'est dans tous les sens, de manière à... Si on cherche quelqu'un qui, aujourd'hui s'applique depuis 2016, et même avant sans doute, à détruire la vérité objective, Trump est un exemple tout à fait remarquable. Mais c'est tout à fait nécessaire pour lui, parce que si vous voulez avoir le pouvoir sur l'esprit, il faut que vous détachiez complètement le peuple, enfin les individus, les citoyens, du rapport au réel. Et c'est ce qui conduit aussi O'Brien à inventer, enfin Orwell, à inventer un terme assez étonnant, qui est de dire que la philosophie qui caractérise ce type de régime, c'est le solipsisme collectif.
C'est la formule est d'Orwell.
La formule est d'Orwell. Ouais. La formule est d'Orwell. Alors la formule est très étonnante, parce que ce qu'on appelle le solipsisme en philosophie, c'est le fait de considérer que finalement moi seul j'existe au monde, il y a que mon esprit est le monde, le monde est ma représentation, mon esprit est le monde. Bon, mais là c'est un solipsisme collectif, c'est le solipsisme du parti. Et O'Brien le définit de la manière suivante: la réalité n'est pas extérieure, elle existe dans l'esprit humain, pas dans l'esprit individuel qui peut se tromper et de toute façon périra, uniquement dans l'esprit du parti. C'est donc une sorte d'idéalisme absolu. C'est le parti qui décide. C'est pas simplement qui sait, c'est le parti qui décide, une sorte de décisionnisme absolu. C'est le parti qui décide du vrai et du faux.
Et les individus se fondent, sont sommés de se fondre dans ce nous collectif.
Sont sommés de... Et ce qui fait dire à Orwell, c'est une phrase sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, parce que elle est en porte-à-faux avec l'image habituelle du totalitarisme. Ce qui fait écrire à Orwell dans un essai de 1946, « Le mensonge organisé pratiqué par les États totalitaires est partie intégrante du totalitarisme. Il continuerait d'exister même si les camps de concentration et la police secrète cessaient d'être nécessaires. » Ce qu'Orwell arrive à imaginer, c'est un système totalitaire parfait, ou en ayant réussi à changer le langage par le novlangue, en ayant réussi à réécrire l'histoire entièrement, en refaisant les archives, en truquant les archives...
En continu.
Bon. Un tel régime, à la limite, pourrait peut-être se passer de police ou de camp, puisqu'on aurait reformaté complètement l'esprit des individus, le fonctionnement de l'esprit des individus. Mais il y a une chose dont il ne pourrait pas se passer, c'est précisément du mensonge permanent et de la destruction permanente de la vérité. Donc il met l'accent, évidemment tous les analystes des régimes totalitaires ont toujours dit que c'était des régimes du mensonge, mais...
Mensonge déconcertant. Même.
Mais, absolument. ce que fait Orwell, c'est que dans la mesure où il voit... dans le pouvoir sur l'esprit tel que je l'ai décrit tout à l'heure, une des clés essentielles de ces régimes, c'est qu'au fond, la destruction de la vérité objective, le mensonge organisé, est une des clés de voûte de ces régimes-là. Ce qui permet aussi, je parlais de Trump tout à l'heure, de nous intéresser pas simplement aux régimes qui existent aujourd'hui et qui sont installés depuis des décennies, comme le régime chinois, ou depuis un quart de siècle, comme le régime de Poutine, mais à ce que j'ai appelé les laboratoires du totalitarisme.
C'est ce que je voulais dire. Alors, c'est un avertissement très rapide au lecteur, quand même, pour bien préciser. Alors, ton livre est extrêmement lisible, hein, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de philosophie politique, et surtout, il est assez fascinant dans la mesure où tu as rassemblé aussi beaucoup de matériel, beaucoup d'informations sur les régimes dont tu parles, donc on va en dire deux mots pour terminer. Ce que tu appelles laboratoire contemporain du totalitarisme, avec cette idée toujours que ce sont des régimes qui ne sont pas derrière nous, mais qui sont soit là, soit devant, malheureusement, avec cette idée de laboratoire, et que on a affaire à une menace existentielle pour la démocratie.
Cette idée de laboratoire, elle me vient de quelque chose qui résulte d'ailleurs du fait que le totalitarisme repose sur la volonté, repose en grande partie, pas seulement, mais sur la volonté de ses dirigeants, c'est que ce sont des régimes qui inventent sans cesse. La fausse idée, la fausse image, c'est de dire ce sont des régimes rigides, monolithiques, etc.
Et Trump invente.
Pas du tout. Xi n'arrête pas d'inventer. Si vous regardez les différents dirigeants chinois, chacune des générations de dirigeants chinois entre Deng et Xi a inventé quelque chose et Xi continue d'inventer. Poutine est un grand inventeur. Un inventeur terrifiant, mais c'est un grand inventeur. Il est en train d'inventer une Russie entièrement tournée vers la guerre, dans une économie de la mort et de la guerre. Il y a même un de ses idéologues actuels, Karaganov, qui vient de déclarer que la guerre était dans les gènes ou dans le sang des Russes, et que voilà, l'histoire est tragique et la guerre fait partie de la Russie. Les régimes totalitaires sont des régimes tournés alors vers la guerre, mais vers la guerre vers l'extérieur pour dominer à l'intérieur. Il est évident que en se lançant dans la guerre contre l'Ukraine, Poutine a renforcé considérablement son pouvoir sur l'ensemble du peuple russe. Il y a un lien extrêmement étroit entre les deux. Ce sont des régimes qui ne cessent pas d'inventer. Ce sont des régimes qui sont tournés vers l'avenir. Ils se projettent vers l'avenir. C'est très clair qu'aujourd'hui, Poutine et Xi sont convaincus que l'Occident finira par s'effondrer, que la démocratie finira par s'effondrer. Leur vrai ennemi, c'est la démocratie. Ce ne sont pas seulement les valeurs occidentales que soi-disant... Leur vrai ennemi, c'est la démocratie. Si Poutine veut détruire l'Europe, c'est parce qu'il veut détruire la démocratie. Il faut pas... Si s'en prend à Taïwan, c'est parce que... Comment ça? C'est des Chinois et ils sont démocrates? C'est pas possible. C'est ça qu'il faut détruire. Et il y a une invention permanente. C'est-à-dire que les régimes totalitaires sont pas des régimes figés. Pour une raison bien simple, c'est qu'un régime totalitaire parfait, ça peut pas exister.
Mais est-ce que tu vois, du coup, parce que tu le cites à la fin du livre, tu cites aussi, alors, t'es prudent, hein, parce qu'effectivement, c'est une catégorie qui peut pas s'utiliser n'importe comment. Tu parles évidemment des États-Unis Trump, ouais. Tu parles d'Israël actuellement. Ouais. Malheureusement, il y aurait beaucoup d'autres exemples, hein.
Bien sûr.
Il y a la Hongrie, il y a la Turquie. D'autres.
Parce qu'il faut voir au cas par cas. Il faut prendre le temps.
Parce qu'il n'y a pas d'idéologie.
Et puis, il y a des régimes. Dans une présentation de mon livre en librairie, l'autre jour, il y a une amie iranienne d'origine qui dit « Ah mais alors l'Iran, qu'est-ce que vous en faites ?» Et elle dit « Bah finalement, en Iran, ils sont totalitaires, mais ils n'y arrivent pas vraiment. Ils n'y arrivent pas vraiment parce qu'ils n'arrivent pas complètement à juguler la société. Le mouvement « Femme, vie, liberté », évidemment, ils se sont fait réprimer de manière atroce et terrifiante. Mais à animer la société iranienne, un mouvement de ce type-là est inimaginable en Russie aujourd'hui. Donc on peut aussi mesurer, en fonction des critères d'Orwell, on peut mesurer les progrès dans le totalitarisme. Je finis même par employer, alors le mot est un peu barbare, mais le terme de totalitarisation, parce que c'est un
processus dynamique.
C'est un historien italien, un très grand historien, Emilio Gentile, qui est un historien dont je conseillerais vivement la lecture, son petit bouquin « Qu'est-ce que le fascisme ?» et un modèle du genre. Ça se lit très bien. Et il explique, mais attendez, le fascisme, il n'est pas arrivé en 2 minutes en Italie. Alors, d'accord, il prend le pouvoir, et puis il y a une fascisation et une totalitarisation progressive de la société. Et il explique comment même encore à la fin des années 30, avant même le pacte avec Hitler, dans la seconde moitié des années 30, Mussolini continue à asseoir son pouvoir et à... cadenasser. Et c'est une idée qui m'a beaucoup servi, parce que je crois que dans chaque pays, les organisations totalitaires, qu'elles soient au pouvoir, qu'elles n'y soient pas, fonctionnent comme des laboratoires d'invention du totalitarisme.
Bien. Bah, écoute, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, c'était discussion, un échange passionnant autour de ton livre aux éditions Hors d'atteinte qui s'appelle L'esprit du totalitarisme, George Orwell et 1984 face au 21e siècle, qu'on recommande donc, vous l'aurez compris, vivement aux auditeurs. L'émission sera pour ce qui la concerne disponible sur le podcast de l'émission sur gurdulu.org. Et on se retrouve dans 15 jours.
Merci à vous.
Take a look at your parents, that's what you're headed for. It should give you a fright. They might as well been dead for the last 30 years, but they're nice and polite. There's nothing in their future except the nursing home.
fucking lives and they still have the nerve to try to manage your life. 12 years where you learn just one thing, how not to mind being bossed. Oh, you learn to follow orders when each day's just the same, and they all use the same voice. Just where you gotta work for the next 50 years, that's your freedom of choice.
Bonsoir, c'est GMC+, vos micros, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et DAB+, car nous sommes passés à la modernité. N'oubliez pas de télécharger la souscription, car nous avons besoin de votre soutien actif pour maintenir la radio de qualité, le matériel, tout ça. Numéro du studio 01 43 71 89 40. Vous allez sur le site de la radio et vous allez trouver le programme avec l'ensemble de la grille des émissions. Vous avez également la possibilité de réécouter les émissions pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion. Vous pouvez réécouter ou télécharger.
Vous avez ma page Facebook If Jazz Bip sur laquelle je mets l'ensemble des informations, les playlists, les images, les comptes rendus de concerts, etc., etc. Ma page Insta très très rarement parce que je suis pas du tout moderne. Et si vous avez besoin de renseignements plus précis, vous m'envoyez un mail à dk51@sfr.fr, playlist, choses comme ça, et je vous répondrai. Ce soir, Nicolas, la technique qui a bien voulu accepter de remplacer notre technicien habituel Franck, que je remercie chaleureusement pour son aide active. Et puis ce soir, nous avons un habitué des studios, Hervé Célin, le pianiste, compositeur, chef d'orchestre, et qui vient nous parler d'Eric Satie avec son nouvel album qui s'appelle Jazz Impression. Alors, je précise que le concert de présentation a été hier au Bal Bleu-Mec, donc en fait on s'est vu hier. Donc merci Hervé d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ce nouvel opus et tu es un habitué des studios, donc j'espère que ça va, tu t'es remis de tes émotions sur le concert d'hier.
Oui, d'émotions, que des belles émotions.
Oui, c'était un très beau concert, il faut dire les choses. J'étais très surpris, ce qu'on disait hors micro, de la qualité d'écoute du public.
Ça m'a énormément touché aussi, parce que la qualité d'écoute, la qualité du silence... c'est-à-dire que, en fait, moi, je vis les concerts, beaucoup encore plus maintenant, comme des histoires et comme des moments de vie, et pas seulement comme de la musique que l'on vient jouer en jouant des morceaux les uns.